aujourd'hui dans Luc au chapitre 19. Donc prions. Merci Seigneur encore pour cette occasion que tu nous donnes de nous rassembler via le truchement de l'Internet, via toutes ces technologies qui ont été mises de l'avant pour nous et à travers lesquelles, Seigneur, nous pouvons garder contact les uns avec les autres. Nous prions, Seigneur, que tu déposes sur nous ta grâce ce matin, que tu ouvres notre entendement à ta parole et que tu nous conduises, Seigneur, dans notre réflexion, dans notre méditation et dans notre partage de ce jour. Seigneur, nous te demandons simplement de parler à chacun d'entre nous et de mettre en lumière notre existence afin, Seigneur, que s'il y a quelque chose à abandonner, quelque chose à changer, quelque chose à remettre entre tes mains, que nous puissions le faire avec rapidité et avec dévouement. Donc nous te disons merci de prendre soin de nous, merci de nous bénir, merci de nous parler ce matin. Nous t'avons prié en ton nom Jésus. Amen. Alors je lis pour vous dans Luc au chapitre 19, le verset 46 à 48. Luc 19, 46 à 48. Mais 45 plutôt à 48. Donc le verset 45 nous dit « Il entra dans le temple et il se mit à chasser ceux qui vendaient, leur disant « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Il enseignait tous les jours dans le temple et les principaux sacrificateurs, les scribes et les principaux du peuple cherchaient à le faire périr. Mais ils ne savaient comment s'y prendre, car tout le peuple l'écoutait avec admiration. Alors je répète le verset 46 qui nous sert de réflexion ce matin, même le verset 45. Il entra dans le temple, il se mit à chasser ceux qui vendaient, leur disant, il est écrit, « Ma maison sera une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Alors, je ne reviendrai pas sur ce qu'on a enseigné lundi et mardi. Lundi, ce même passage, mais dans le livre de Matthieu. Mardi, ce même passage, mais dans le livre de Marc. On vous invite simplement à retourner précédemment sur la page Facebook de l'Église ou sur la page Internet pour réécouter ou revoir ces deux vidéos. À chaque jour, on essaie de sortir des particularités du texte qu'on lit le matin même. Donc aujourd'hui, quatre points ou cinq points que je trouvais importants de partager avec vous. Jésus va dire, il est écrit, ma maison sera. Il est écrit, ma maison sera. Et il est écrit, c'est un texte, il se réfère à ce moment-là dans un texte dans Ésaïe d'une part, qui parle de la maison de prière, et dans Jérémie qui parle de cette maison qui a été transformée en caverne de voleurs. Donc Jésus va retourner, comme on l'a vu à travers les dernières journées, dans des textes anciens, dans des textes antérieurs, dans des passages où Dieu parle à son peuple, et il ramène à la mémoire et aux oreilles du peuple contemporain qu'il a devant lui ces anciennes paroles de Dieu. Mais pour nous, ce qui est important de savoir, c'est que s'il était écrit, c'est donc qu'il y a des choses qui ont été prévues, pensées et planifiées de la part de Dieu. Et on le répète souvent, Dieu a des plans et des desseins pour nous. Nous ne sommes pas le fruit du hasard et nous ne sommes pas strictement le fruit d'un acte physique entre un homme et une femme, notre père et notre mère. Nous sommes le plan de Dieu. Tu as été créé par Dieu avec un plan, avec un projet, avec un dessein qui était net et clair pour lui. Il avait des choses qu'il voulait te voir accomplir. Et que ce soit notre participation à l'ensemble de l'Église, notre participation à la maison de prière qu'il est en train de bâtir avec l'ensemble des croyants et des saints, ou que ce soit nous en tant qu'individus, en tant que temple respectif du Saint-Esprit, il avait un plan. Dieu avait un plan pour toi afin que tu joues un rôle particulier dans l'ensemble de l'Église, mais Dieu a aussi un plan qui est distinct pour ta vie. Le plan qu'il a lancé sur mon existence n'est pas le même qu'il a lancé sur ton existence. Les choses qu'il voulait me voir accomplir, il s'attend que moi je les accomplisse et pas toi. En parallèle, ce qu'il voulait de toi, il ne me le demande pas nécessairement à moi. Donc oui, il y a des plans divins et il y a des desseins divins. Nous avons été créés avec un dessein, avec un projet qui émane directement de Dieu. Et la seule façon d'avoir une vie ici-bas sur Terre qui en aura valu la peine, c'est de s'assurer de faire effectivement ou d'accomplir effectivement le plan de Dieu pour notre vie. Donc Dieu a un plan pour l'Église locale, il a un plan pour l'Église universelle et il a un plan pour l'Église que toi tu représentes en tant que membre du corps de Christ et en tant que temple distinct du Saint-Esprit. Donc ce plan-là joue sur trois paliers, sur ta vie personnelle au plus bas des échelons, sur ta vie dans le corps local, dans la congrégation à laquelle tu appartiens. Et voilà pourquoi dans le livre aux Hébreux, l'auteur va dire « N'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de plusieurs » parce qu'il comprend que même dans le corps local, tu as aussi un plan qui vient de Dieu. Tu as aussi un rôle qui doit être joué au sein de ta congrégation locale. Et si tu sors de ce plan, mais tu laisses un vide. De surcroît à cela, nous sommes aussi partie prenante de l'ensemble des croyants, de l'ensemble du corps de Christ, et j'ai aussi un rôle à jouer au niveau de l'Église qu'on appellerait globale ou universelle, ou parfois on utilise l'expression l'Église avec un grand E versus l'Église locale qui est l'Église, sans être péjoratif, l'Église avec un petit E. Donc il est écrit « Ma maison sera ». Donc Dieu a des plans et il a des desseins pour sa maison, quelle que soit la forme dans les trois paliers qu'on vient d'énumérer. Il dit « Ma maison sera une maison de prière ». Une maison de prière. Donc le plan prioritaire de Dieu pour ta vie et pour ma vie, c'est la prière. Et soyons clairs, la prière n'est pas une chose innée. Les apôtres, les disciples vont s'approcher de Jésus, ils vont dire à un moment donné à Jésus « Enseigne-nous à prier comme Jean a enseigné à ses disciples. » Et c'est là que Jésus va leur enseigner le Notre Père. Il n'est pas en train de leur dire « Vous réciterez le Notre Père. » Il est en train de sortir des vérités sur lesquelles et par lesquelles la prière s'exécute. Et probablement, on l'a déjà fait lors d'une assemblée au tout début du confinement, mais on aura certainement l'occasion de reprendre ce texte et de le détailler un peu plus pour voir quelles sont les bases, quelles sont les structures, quelles sont les notions qui sont à tirer de cet enseignement de Jésus pour ses disciples qui leur enseignent le Notre Père. Mais ceci étant dit, Jésus va enseigner le Notre Père ou va enseigner à ses disciples comment prier. Pourquoi? Parce que ce n'est pas inné, parce que ce n'est pas une science infuse et parce que nous n'avons pas cette communion innée et intrinsèque avec Dieu dès notre naissance. Cette communion et ce partage avec Dieu s'opère lorsque je viens à lui et lorsque je le reçois effectivement comme mon Seigneur et mon Sauveur et lorsque je reçois le pardon de mes péchés. Cette communion est rétablie avec effectivement le pardon de notre péché. Mais ici, Luc ou Jésus plutôt, dans ses propos, tenait à rappeler que la priorité de la maison de Dieu, donc dans les trois paliers, au niveau individuel, au niveau de la congrégation locale et au niveau de la congrégation universelle, la priorité pour Dieu dans ce rassemblement était la prière. Et qu'est-ce que la prière? Mais la prière, c'est un échange avec Dieu. Contrairement à avant notre conversion, où nous étions éloignés de Dieu, coupés de contact avec Dieu, coupés de la présence de Dieu. Aujourd'hui, nos liens ont été rétablis avec Dieu et toi, moi, mon frère, ma sœur, l'ensemble de notre congrégation locale et l'ensemble de l'Église universelle, nous avons accès à Dieu et nous avons cet échange mutuelle où je lui parle, où il me parle, où nous échangeons, où j'apprends à écouter sa voix, j'apprends à reconnaître sa voix, et où il m'indique ses plans et sa volonté. Donc la prière se doit d'être une priorité dans notre maison. Dans la maison de Dieu, la prière se doit d'être parmi les choses les plus importantes. Ce qui marque la chrétienté, c'est d'avoir un accès direct avec le Dieu créateur, avec le seul, le véritable et le véridique Dieu. Donc, nous devons mettre une priorité sur la prière. Certains vont dire, oui, mais je m'ennuie dans la prière. Souvent, on s'ennuie dans la prière au même titre où tout à l'heure, je parlais du jeûne et je disais que j'ai réappris ce qu'était le jeûne parce que très souvent, ça devient quelque chose de assez rébarbatif lorsqu'on écoute la définition que les uns et les autres donnent du jeûne. C'est comme du sacrifice douloureux, pénible, et astreignant, mais lorsqu'on réoriente notre optique sur le jeûne et sur la prière comme étant un moment précieux à pouvoir parler et à pouvoir être écouté par le Créateur de l'univers, par le Roi des rois, par celui qui est mort par amour pour moi, je pense que notre vision se met à changer. Alors il faut ramener les choses dans leur contexte. Lorsque nous prions, nous avons accès à un Dieu ineffable, à un Dieu merveilleux, à un Dieu tout-puissant. Et même si ce Dieu restait silencieux en notre présence, est-ce que nous comprenons que simplement être devant lui, être en sa présence et lui en notre présence, est-ce qu'on comprend que c'est quelque chose qui dépasse la logique humaine? Nous étions pécheurs, condamnés, justement condamnables, nous nous acheminions avec fermeté vers l'enfer, et à un moment donné, le salut de Christ est arrivé dans notre vie, et nous avons été greffés à la famille d'un Papa céleste merveilleux, somptueux, et il nous donne accès à sa douce et merveilleuse présence. Juste cette pensée-là, juste savoir que le Dieu Tout-Puissant écoute les mots qui sortent de ma bouche et veut que je vienne en sa présence lui parler et l'écouter. Juste cette pensée-là, ça devrait complètement rayer de notre esprit l'aspect sacrificiel, l'aspect douloureux, demandant, astreignant de la prière. Il nous faut réviser nos façons de faire. Je pense que la prière astreignante, la prière demandante et difficile et coûteuse, je pense que cette notion ou cette façon de voir est inspirée par le diable pour nous empêcher d'avoir le goût, d'avoir l'entrain, d'avoir le désir de passer encore plus de temps avec Dieu. Mais lorsque je remets les choses dans leur contexte, moi, faillible comme je suis, moi, inique comme je suis, moi, avec des lèvres mensongères, avec des mains qui ont péché, avec un cœur qui était souillé, avec des pensées qui étaient sales, j'ai eu accès à ce sang précieux de Jésus pour me purifier et j'ai maintenant accès à la présence de mon Père céleste. Alors juste cette pensée-là devrait nous amener à vouloir davantage de passer du temps dans la prière. Donc oui, la maison de Dieu doit avoir comme priorité la prière, que ce soit dans ta vie personnelle, que ce soit dans la vie de l'église locale et que ce soit plus dans un plus grand échelon dans la vie de l'église universelle. De surcroît à ça, va dire ma maison sera une maison de prière. Mais vous en avez fait. Mais vous en avez fait. Il est en train de parler de l'incidence humaine et de la responsabilité humaine. Ça veut donc dire que toi, tu as la responsabilité sur ce qui se passe dans ta maison. Tu as la responsabilité sur ce qui se passe dans le temple du Saint-Esprit que tu es supposé être. Tu as la responsabilité aussi de ce qui se passe dans ton église locale. Tu vas me dire, oui, mais il y a des pasteurs, il y a des anciens, mais tu as quand même un rôle à jouer. Et si tu ne joues pas ce rôle, si tu ne joues pas déjà ce rôle dans la prière pour ton église, tu es déjà en train de passer à côté d'une responsabilité que Dieu t'a donnée. Et ça a une incidence sur tes bien-aimés, ça a une incidence sur tes leaders. Donc, nous avons notre responsabilité sur ce qui se passe dans le corps de Christ, sur ce qui se passe dans l'église locale et assurément sur tout ce qui se passe dans ma vie personnelle, ce qui se passe dans le temple du Saint-Esprit que toi et moi nous sommes respectivement. Nous avons une incidence humaine. Il ne faut pas tomber dans la même fausse explication qu'Adam a eu lorsqu'il a péché. Lorsque le Seigneur lui a demandé de quoi tu as mangé le fruit, il dit, mais c'est la femme que tu m'as donnée qui me l'a offert. Donc il est en train de dire, c'est pas de ma faute, c'est la faute de la femme. Mais foncièrement, lorsqu'il dit, c'est la femme que tu m'as donnée, il est en train de dire à Dieu, mais c'est parce que toi, tu m'as donné une femme. Si tu ne m'avais pas donné cette femme, ben il se serait pas passé, il se serait pas passé ce qui s'est passé, j'aurais pas mangé du fruit. En ce faisant, il dit, non seulement c'est la faute de la femme, mais parce que c'est toi qui l'as créée, donc Dieu, c'est toi qui es fautif. Donc ne tombons pas là-dessus ou là-dedans en disant, mais c'est la faute de mon père, ou c'est la faute de ma mère, ou c'est la faute des gens qui sont autour de nous, ou c'est la faute des gens qui sont là pour m'enseigner ou pour me fortifier, qui font pas leur boulot. Si ma vie spirituelle, personnelle, tombe en décrépitude, c'est ma faute. Si je ne passe pas le temps adéquat pour prier, c'est ma faute. Si je ne découvre pas quotidiennement un peu mieux le Seigneur, c'est ma responsabilité que je n'ai pas prise et c'est donc ma faute. Et le Seigneur ramène cette responsabilité-là sur nous. Donc il est important que nous prenions effectivement acte de notre responsabilité et que nous apportions les changements qui sont nécessaires. Je suis content de la réponse qu'on obtient actuellement concernant non seulement les bénédictions matinales, mais concernant aussi le temps de prière que l'on veut prendre ce vendredi. Je sais que plusieurs vont faire un effort supplémentaire dans cette prière et je suis content que Dieu puisse utiliser ce faible canal que je suis ou ce faible canal que sont les bénédictions matinales pour amener plusieurs d'entre vous à passer un peu plus de temps dans la présence de Dieu. Donc, tu as une incidence et tu as une responsabilité sur ce qui se passe dans cette maison de prière. Il dit, vous, les vendeurs, vous en avez fait. Il dit, vous avez fait de cette maison de prière une caverne de voleurs. Et il parle spécifiquement à qui? Il parle spécifiquement à ceux qui vendaient. Et c'est particulier parce que les responsables du temple, c'est eux qui ont autorisé que les vendeurs puissent rentrer. Donc à un moment donné, on a permis à des gens qui n'avaient pas leur place dans le temple de rentrer, de s'immiscer, et ces gens-là se sont mis à distorsionner, se sont mis à changer, à déformer le propos de la maison de Dieu, de cette maison de prière, pour en faire tout simplement une maison de trafic, comme on va voir demain dans Jean, et comme on l'a expliqué un peu dimanche dernier, ou qui vont pousser la chose jusqu'à faire une caverne de voleurs. Donc, on a permis à des éléments extérieurs de venir influencer les priorités du temple, les priorités de la maison de Dieu. Alors faisons attention à ce que nous laissons rentrer. Faisons attention à ce que nous permettons d'entrer. Il y a quelques années, je faisais des recherches concernant un homme assez célèbre à l'époque. Je n'avais pas besoin de le nommer. Un homme assez célèbre qui prétendait être chrétien. Je ne sais toujours pas s'il est chrétien ou pas, mais qui fréquentait une église. Puis je me suis rendu compte que dans cette mouvance-là d'église, on avait laissé rentrer différentes choses qui étaient propres au New Age, propres aux choses ésotériques, Et on justifiait ça par une quête de spiritualité. À titre d'exemple, il y avait des pratiques qui étaient issues de l'hindouisme, avec le yoga et avec d'autres choses de méditation transcendantale et tout ça, qu'on laissait rentrer dans le culte de ce groupe qui se disait chrétien. Et foncièrement, c'était quoi? C'est des choses de l'extérieur qui sont venues tacher les priorités de cette maison qui devait être une maison de prière. On a laissé rentrer des choses qui sont venues affecter et détourner par la suite le propos même de notre mission. Alors nous devons faire attention à ce que nous laissons rentrer de l'extérieur, tant dans notre vie personnelle que dans la vie de l'Église et que dans la vie du corps de Christ dans son ensemble. Voilà pourquoi, en tant qu'individu, je dois veiller à quoi où je me nourris, d'une part. À quoi je me nourris? Est-ce que je me nourris de quelque chose qui est attesté comme propice de la parole de Dieu? Ou est-ce que je me nourris auprès de différentes philosophies, différentes pensées, en essayant d'avoir un amalgame qui, quelque part, a l'air d'une confiture agréable à mes propres yeux? Mais cette confiture agréable à mes propres yeux passe-t-elle le test de la parole de Dieu? Si la parole de Dieu dit non et que cette confiture dit oui, cette confiture est donc mauvaise, parce qu'elle ne va pas en parallèle avec la parole de Dieu. Faisons attention aussi aux origines des différentes choses que nous pratiquons, que nous laissons rentrer dans nos vies. Parce qu'ici, dans le temple, Jésus s'adresse à ses vendeurs en leur disant « Mais vous, vous avez fait en sorte que ces choses de l'extérieur rentrent dans le temple et que ce temple qui devait être une maison de prière soit transformé en un repère de voleurs. » Et on pense que il y avait aussi une taxe qui devait être payée par ces vendeurs. Le profit qui se faisait par rapport aux ventes qu'ils exécutaient dans le temple, il y avait une partie du profit qui allait aussi aux dirigeants du temple. Donc, eux aussi étaient mêlés à ce trafic et à ces ventes qui s'opéraient dans la maison de Dieu. Alors oui, en tant que pasteur et membre d'un collège pastoral, j'ai des responsabilités par rapport à ce qui s'opère dans l'Église. Et voilà pourquoi je ne passe pas mon micro à n'importe qui. C'est pas parce que quelqu'un viendrait me voir en me disant « Oui, j'ai prêché dans tel et tel et tel et tel et tel et tel endroit » que j'aurais à cœur nécessairement de lui passer le micro. Et c'est pas parce que quelqu'un aurait prêché même par le passé dans notre Église et qui aujourd'hui se détournerait de certaines bases bibliques ou laisserait rentrer certains facteurs qui sont erronés que je lui prêterais le micro. Je fais très attention à qui enseigne dans l'Église. Pourquoi? Parce qu'il enseigne des brebis sur lesquelles Dieu m'a placé et auprès desquels je dois donner de bons soins. Donc je ne veux pas que quelqu'un vienne donner du trèfle qui pourrait être indigeste pour les brebis alors qu'elles sont sous ma responsabilité. Alors en tant que pasteur, oui, on fait attention à ce qui rentre dans l'Église et oui, on prie énormément pour éviter certains égarements et on vous invite aussi à prier pour nous, que Dieu nous assiste et qu'il nous aide pour rester intègre à sa parole et rester intègre à la mission qu'il a pour nous. Et il se mit, dernier point, il se mit à chasser ceux qui vendaient en leur disant. Il se mit à chasser ceux qui vendaient en leur disant. Ici, on parle de la discipline. Jésus va discipliner le temple en faisant sortir les vendeurs, en renversant les tables. Mais il leur dit, voici ce que la Bible dit et voici ce que vous êtes en train de faire. Donc la discipline qui est exercée dans la maison de Dieu doit être basée et expliquée par la parole de Dieu. On doit être capable de prendre la parole de Dieu pour dire ce que tu fais est mauvais. On doit être capable de prendre la parole de Dieu pour dire les pratiques qui sont rentrées dans le temple et qui viennent de l'extérieur sont mauvaises. Il faut être capable de l'expliquer clairement. Ça ne doit pas être simplement, ah ben j'ai le feeling que, j'ai le sentiment que, mes émotions me disent que, ou je pense que mon esprit me dit que. Non, les choses doivent être clairement établies dans la parole de Dieu, comme ceci est approuvé de Dieu, ceci, Dieu y est contre. Donc la discipline qui est exercée dans l'Église se doit d'être basée et expliquée par la parole elle-même. Ça ne veut pas dire que la parole va expliquer pourquoi Dieu ne veut pas ça. Lorsqu'on parle des 10 commandements, Dieu n'explique pas ce qu'il veut. Il dit « tu ne tueras point ». Il n'explique pas pourquoi il ne veut pas qu'on tue. Il dit simplement « tu ne tueras point ». Il dit « tu ne commettras pas l'adultère ». Il n'explique pas nécessairement pourquoi il ne veut pas l'adultère. Il dit tout simplement « tu ne commettras pas l'adultère ». À un moment donné, il va parler du vol. Il dit « tu ne voleras point, tu ne déroberas point ». Il n'explique pas pourquoi ne pas voler. Il dit simplement « tu ne voleras point ». Donc, tout n'est pas expliqué, mais tout est justifié par la parole de Dieu. Il y a des choses que la société aujourd'hui pourrait dire « hey, c'est pas mal de faire telle chose », mais Dieu a déjà dit « ça, c'est mal ». Ça, c'est une abomination. Alors que tu sois d'accord, que tu comprennes le pourquoi et le comment Dieu veut que les choses se passent, ce n'est pas toujours clair pour expliquer le pourquoi. Mais il y a des choses qui sont tout simplement noires sur blanc. Dieu est contre. Et on doit l'accepter. Quand il l'explique, tant mieux. Quand il nous explique en nous disant « mes enfants, je veux que vous ne fassiez pas telle chose parce que, s'il y a des parce que, tant mieux. Mais si pour une raison qui est propre à Dieu, il dit « moi, je n'ai pas expliqué pourquoi, je ne veux juste pas que tu pratiques cette chose-là », ben, que tu comprennes le pourquoi ou pas, ce n'est pas important. Dieu a dit « tu ne le fais pas ». Alors quand il dit « tu ne tues pas », tu ne poses pas de question à Dieu « pourquoi tu ne veux pas que je tue ?» Il dit simplement « tu ne tueras pas ». Et tu appliques la chose. Tu ne tues pas. Tu ne voles pas. Tu ne mens pas. Tu ne commets pas l'adultère. Et l'ensemble des autres directives que le Seigneur nous donne. Donc la discipline dans ta vie, dans ma vie, doit être basée sur la parole de Dieu. Alors qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu que Dieu a des desseins et des plans pour toi, et pour moi, et pour nous en tant qu'Église locale, et pour nous en tant qu'Église universel. Mais on a vu que dans ces plans-là, la priorité numéro un pour Dieu, c'est que nous passions du temps dans sa présence à communiquer avec lui. La prière doit être la priorité numéro un dans nos vies. On a vu que l'homme a une incidence sur ce qui se passe dans la maison, dans notre maison personnelle, dans notre vie personnelle, mais aussi on a une part et une incidence dans ce qui se passe dans l'Église, dans ce qui se passe dans le corps de Christ. Et on doit faire face à nos responsabilités et comprendre que j'ai un rôle à jouer pour que les choses se passent bien, pour que nous restions intacts devant Dieu. On a vu aussi que les vendeurs étaient des gens de l'extérieur du temple qui venaient modifier le parcours, qui venaient réorienter la raison d'être du temple. Alors, qu'est-ce qu'on permet à l'extérieur de venir influencer dans nos vies? La Bible nous dit de garder nos cœurs comme la chose la plus précieuse. Donc, qu'est-ce que tu laisses rentrer dans ton cœur? Qu'est-ce que tu laisses venir influencer dans tes pensées, dans tes pratiques? Et la Bible nous dit par la suite, et c'était le dernier point, qu'il s'est mis à les chasser en leur disant. Donc, la discipline de notre vie doit être basée sur ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Pour toi, pour moi, pour nous en tant qu'Église. Alors voilà, c'était tout pour ce matin. On va prier pour remettre la journée entre les mains du Seigneur. Et après ça, je vous donne quelques indications pour aujourd'hui. Alors merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour les plans que tu as pour moi, pour ma sœur, pour nous en tant qu'Église locale, mais aussi, Seigneur, pour l'ensemble du corps de Christ auquel nous appartenons. Merci, car tes plans sont merveilleux et tes desseins sont parfaits. Merci, Seigneur, aussi parce que tu nous rappelles l'accès que nous avons auprès de toi pour communiquer avec toi, pour recevoir de toi, pour échanger avec toi. Quel privilège, quelle joie, quel merveilleux cadeau de savoir que moi qui étais pécheur, qui suis gracié, j'ai accès au roi des rois, à la salle du trône où je peux m'approcher en toute sincérité, en toute honnêteté et avec assurance. Je peux m'assurer, mais je peux m'approcher du roi des rois et du seigneur des seigneurs, du créateur de l'univers. C'est juste une idée merveilleuse. C'est juste un fait merveilleux qui dépasse mon entendement. Merci Seigneur aussi de me rappeler de la responsabilité qui est la mienne dans ce qui se passe dans ma propre vie et dans la vie de la congrégation à laquelle tu m'as associé, à laquelle tu m'as joint, dans laquelle tu m'as greffé, mais aussi ma part de responsabilité dans l'avancement de ton royaume. Alors je prie Seigneur tant pour ma sœur, pour mon frère, que pour moi-même, que nous puissions non seulement répondre présent face à nos responsabilités, mais que nous puissions nous acquitter droitement des tâches, du plan, du travail que tu mets entre nos mains. Seigneur, nous prions que toute influence de l'extérieur, Seigneur, soit coupée, que nous puissions vraiment retourner à ce que tu enseignes, à ce que ta parole proclame, que nous puissions vraiment, Seigneur, avoir à cœur de te connaître davantage, et si quelque chose s'est immiscé parmi nous, qui ne glorifie pas ton nom, qui est une influence et une infiltration même qui vient de l'ennemi, nous te demandons, Seigneur, éclaire-nous pour que nous puissions saisir cette chose, la déraciner et la jeter au loin. Parce que nous ne voulons en rien, Seigneur, être privés d'une communion totale et parfaite avec toi. Alors si quelque influence de l'extérieur se serait immiscée dans nos vies, éclaire-nous pour que nous puissions prendre les dispositions adéquates. Et Seigneur, nous voulons retourner à ta parole. Cette semaine, on voit essentiellement la prière, l'importance de la prière et l'importance de retourner à la parole de Dieu. Merci pour ces bénédictions matinales dans lesquelles nous apprenons à te connaître davantage, dans lesquelles nous apprenons à connaître davantage ta volonté et ce que tu demandes de nous. Alors Seigneur, nous prions que ta parole trouve dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre âme, dans notre esprit, une place, Seigneur, prioritaire. Face à toutes les autres préoccupations de notre quotidien, que nous ayons à cœur de lire ta parole, de recevoir d'elle et d'être nourris par elle, afin de croître et d'être dans une forme spirituelle optimale. Alors j'appelle ta bénédiction sur ma sœur, sur mon frère, accorde-leur ta grâce et permets-leur de passer du bon temps avec toi. Aujourd'hui, nous t'avons prié en ton nom Jésus. Amen. Alors, je remonte simplement un peu pour voir qui nous a rejoint depuis tout à l'heure. Alors, il y a Denise de Laval, de l'église de Montagne, Farley, Marie-André, la sœur Florie, le frère Louis, le frère Gérard, la sœur Évelyne. Il y a la tante de Daphné, tante Luce, bonjour. Il y a Jude, le pasteur Joyal. Il y a Mireille Côté, bienvenue parmi nous. Il y a Sabine, je suis content de te voir Sabine, sois bénie. Il y a Lucie, il y a Immacula, il y a Ramon, il y a Sony, Njimi. Il y a qui d'autre? Je pense que c'est tout pour ce matin. Donc voilà, donc on vous rappelle, ce soir il y a rendez-vous avec le pasteur Sergio, c'est l'étude biblique sur le livre de Marc avec comme thématique générale « Servir Dieu en temps de défi ». Donc c'est sur Facebook et puis sur la page web de l'église à partir de 19h. Alors comme on l'a annoncé depuis le début de la semaine, nous avons un temps spécial de prière vendredi, où on vous invite à prendre du temps dans le jeûne et dans la prière. Pour ceux qui n'étaient pas là, au tout début de l'enseignement, j'ai pris l'occasion d'expliquer un peu ce qu'était le jeûne et comment on pouvait procéder. Donc, on vous invite dans les prochaines minutes simplement à regarder de nouveau le début de l'enregistrement de ce matin. Et puis, vous aurez donc quelques indications sur le jeûne et la prière de vendredi. Alors, sur ce, rappel, ce soir, 19h, avec le pasteur Sergio. Et puis, demain matin, à partir de 8h30, notre prochaine bénédiction matinale. Et on sera dans le livre de Jean, au chapitre 2. Et on va voir pour une dernière fois cette histoire où Jésus chasse les vendeurs du temple. Alors, sur ce, passez une bonne journée. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce vous accompagne en toutes choses. À demain tout le monde, au revoir.